welcome to the Brooklyn. Please keep your seat belt fastened and do not open your luggage compartment until seat belt time has been switched on.
Dobrodošli u Hrvatsku. Bienvenue en Croatie.
Suivez le guide, vous emmène en Méditerranée, sur les bords de l'Adriatique. La Croatie, 4 millions d'habitants, indépendante depuis 1991, après la dislocation de la Yougoslavie, entrée dans l'Union européenne en 2013, tout en gardant sa monnaie, la kuna.
Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide.
La Croatie est entourée à l'est du Monténégro, une frontière de 25 km à peine. Bien plus longues sont les frontières avec les Bosnie-Herzégovine, Serbie, Hongrie et Slovénie. Et s'il fallait donner une forme à la Croatie, nous pourrions tenter le croissant ou le fer à cheval. La portion croate de la côte adriatique s'étend sur 1777 km. Et si nous ajoutons les côtes des 1000 îles croates, nous approchons les 6000 km côtiers et comprenons aisément pourquoi la Croatie est le paradis des navigateurs. Cinq régions la composent, la Slavonie à l'est, la Croatie centrale entoure la capitale Zagreb, l'Istrie à l'ouest, l'Ika, les zones montagneuses, ainsi que la Dalmatie longeant l'Adriatique. En passant par Split, nous y arrivons, et Dubrovnik où a débuté notre voyage. Dubrovnik ou Raguse, jusqu'en 1918, un peu plus de 40 000 habitants, haut lieu touristique, fondé au 7e siècle, capitale de la République de Raguse pendant près de 5 siècles, jusqu'à ce que Napoléon y mette fin en 1808. Nous sommes à 1400 km à vol d'oiseau au sud-est de Paris, 1900 par voie terrestre. Deux découvertes dans ce Suivez le guide, Emmanuel Roskam nous invitera à Stella Croatica, un ethno-agroparc proche de Split. Mais pour commencer, nous sommes à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Dubrovnik et avec Marijana Varezic, découvrons la presqu'île de Pelješac.
Pratite vodiča u Dalmaciji. Sive le git on Dalmaciji.
Dobar dan, ja se zovem Marijana. Dobrodošli u Ston. Nalazimo se na samom jugu Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Je m'appelle Marijana. Bienvenue à Stone, nous sommes dans la région de Dubrovnik et aujourd'hui nous allons découvrir la presqu'île de Pelješac.
La presqu'île, Marijana, de Pelješac avec vous. Et alors c'est étonnant, nous sommes à Stone et il y a des pierres partout. Pourtant il n'y a pas de lien, ça s'écrit presque comme Stone, il n'y a pas de E à la fin, mais presque comme Stone en anglais. Y a-t-il un lien au niveau du nom ?
Pas vraiment, parce que le nom de ville Stone, ça vient de Stagnum et ça veut dire le marécage.
Ah, pas la pierre.
Non, pas la pierre. La ville, elle est faite en pierre calcaire et tous les remparts qui sont tout autour, dont la longueur est presque 5 km. Et les remparts, la construction a commencé déjà au XIVe siècle sous la domination de la République de Dubrovnik.
Alors on va parler de la République de Dubrovnik et on va marcher, on va prendre ces remparts. C'est un peu la grande muraille de Croatie.
C'est ça, on dit que c'est la grande muraille de Chine croate.
Ah, de Chine croate. Et c'est assez sportif.
C'est assez sportif et tous les ans, ces dernières années, il y a au mois de septembre, il y a un marathon où les jeunes coureurs, ça fait partie de leur course. Donc ça peut être très sympa, mais il y a beaucoup de marches à faire, donc il faut être en bonne forme.
Alors c'est une marche et on va monter des marches et on est en ascension. Sur la colline et entouré de collines, enfin, c'est un environnement vraiment très très impressionnant. Et si on fait le tour, donc combien ? 5 km, c'est ça ?
Au total, avec le mur qui traverse la colline de l'autre côté, ça fait même peut-être 7 km. Mais maintenant, il y a à peu près 5 km que la partie qui a été restaurée.
Bon, mais nous, on ne fera pas les 5 km, Marianne.
Non, 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 on va faire seulement une petite partie, mais la vue sur la ville et sur les salines à côté, vous allez voir, c'est magnifique.
Злапна смола, дивна смола, тамма земли чека нас. Злапна смола.
Peut-être un mot de la presqu'île. Cette presqu'île, on est à 50 km de Dubrovnik.
C'est ça, nous sommes à 50 km de Dubrovnik. L'histoire de la presqu'île est très reliée à l'histoire de la ville de Dubrovnik parce que c'était la deuxième plus grande ville de la République de Dubrovnik.
Alors la République, vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de cette République qui a existé de quand à quand, la République de Dubrovnik?
Officiellement, on dit que c'était du milieu du XIVe siècle, en fait de 1358 jusqu'à l'arrivée de quelqu'un de chez vous en fait.
De chez nous?
Ah oui, Napoléon.
Ah, il a beaucoup voyagé, Napoléon. Hein.
Il a beaucoup voyagé
en Europe.
Et ici, on a eu un maréchal napoléonien. C'était le maréchal Marmont, qui est devenu duc de Raguse. Parce que la République de Dubrovnik, le nom de la ville et de la République, c'était Raguse.
Et alors du coup, Napoléon a laissé plutôt un bon ou un mauvais souvenir par ici?
À Dubrovnik, il a aboli notre république, donc ça peut pas être...
Ah donc, c'est pas un bon souvenir, non.
Mais à Split, ils vont vous dire autre chose. Il a beaucoup aidé le développement, les routes. Donc à Split, vous allez voir une autre version de l'histoire. Mais c'est tout à fait vrai. Parce que Dubrovnik et Split, l'histoire, elle est différente.
Ouais, et on est à 200 km hein, de distance entre Dubrovnik et Split.
C'est ça.
Qui sont des villes au niveau importance, enfin développement, population. Donc Dubrovnik, c'est à peu près
40 000 habitants. 45 000, voilà. Et Split, c'est 200 000.
Ah, donc plus grosse ville.
Ah oui, oui.
Aujourd'hui, Split et Dubrovnik, nous sommes en Dalmatie.
Nous sommes en Dalmatie.
Voilà. En Croatie, en Dalmatie.
La Dalmatie, c'est la plus belle région croate, donc une région avec beaucoup d'îles. On dit que la Croatie, c'est un pays de 1000 îles.
Vraiment, 1000 îles qui ne sont pas toutes habitées?
Ils ne sont pas toutes habitées, à peu près 60 qui sont habitées. Mais avec une très belle végétation, avec des vignobles, des oliviers, une belle végétation méditerranéenne. Donc c'est la nature, plus le patrimoine architectural et historique qui souvent date de la période de la domination vénitienne.
On peut dire, en quelque sorte, si on compare à la France, que c'est ici, la Dalmatie et cette région autour de Dubrovnik, que c'est la Côte d'Azur croate.
On peut le dire comme ça, oui.
Bon, même si on ne fait qu'une petite partie à Mariana, on le sent quand même dans les jambes. Hein.
On a une belle vue sur la ville et les touristes nous demandent toujours « Mais pourquoi vous avez fait cette muraille pour protéger cette ville ?»
Cette qui est petite ville, toute petite, toute petite.
Toute petite.
Une si grosse muraille pour une si petite ville.
Mais il y a une explication logique. Ah. D'ici, on peut voir qu'il y a un canal de mer par lequel la mer entre dans la vallée juste devant la ville. Et il s'agit des salines.
Voilà, derrière, il y a ce qui ressemble à des champs. Mais en fait, ce ne sont pas des champs traditionnels, ce sont des marais salants.
Des marais salants avec, je crois, 56 bassins à peu près. Et l'exploitation a commencé déjà au XIVe siècle, aussi avec la République de Dubrovnik. Et l'importance du sel à l'époque, c'était, vous pouvez imaginer...
Le sel, c'est la richesse.
C'était la richesse. Et nous ici, on l'appelait l'or blanc. On ne pouvait pas conserver les aliments sans sel à l'époque. Et Dubrovnik avait un monopole avec du sel dans les Balkans. Et on dit qu'il y avait des périodes où 1 kg de sel égalait 1 kg d'or. Donc c'était vraiment notre or blanc. Donc toute cette muraille médiévale, ce complexe de fortifications, de tours, de forteresses, c'était construit pour défendre les marais salins.
Voilà, l'or blanc et la muraille blanche.
Et la muraille blanche, ça va bien avec une belle couleur verte, la végétation qui est tout autour.
Avec ces collines, ça c'est vraiment très joli, puisqu'il y a des collines tout autour de nous, partout à 360 degrés. Cette petite ville de Stone est entourée de collines.
Mais aussi, on entend le son de la cloche de l'église Saint-Blaise. C'est le patron de cette petite ville. Mais il n'y a pas que cette église, parce qu'on voit qu'il y a un grand monastère, le monastère franciscain. Donc la ville de Stone, toute la région, la Croatie, nous sommes un pays catholique et ça se sent partout où on va.
Voilà, monastère en activité.
Il n'y a plus de moines franciscains, mais il y a des sœurs religieuses.
Jagoda črlena, jagoda malena, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Jagoda črlena, jagoda malena, pozdravi mi Koprivnici dragoga.
Suivez le guide, vous emmène en Croatie et si nous pouvons y prendre la route des mille îles, aujourd'hui c'est une presqu'île que nous découvrons, Pelješac.
Pratite vodiča na poluotoku Pelješac. Suivez le guide sur la presqu'île de Pelješac.
In Croatia I'll be, along the Adriatic Sea, from Zagreb to Dubrovnik, it's Croatia for me.
Marianne, nous atteignons dans notre petite... Bon, c'est une courte marche, hein. On a dit pas les 5 km, mais c'est une petite portion de cette muraille de Stone. Nous atteignons, nous, notre point culminant.
Et voilà ce que peut-être on peut mentionner sur les salines. C'est intéressant que tous les bassins, ils portaient le nom d'un saint. Saint Blaise, Saint Joseph, Saint Jean.
C'est pour ça qu'on dit bassin, bassin Blaise.
Ah, peut-être, oui, oui. Mais il y en a un qui s'appelait El Mundo, alors le monde. Et c'était pour donner du sel gratuitement aux habitants de la ville. Comme ça coûtait cher, on devait quand même s'assurer que les habitants de la ville aient suffisamment.
Et qui travaillaient dans les marais salants.
Et qui travaillaient.
Vous me direz, je pensais à une chose, peut-être que stratégiquement, ça évitait aussi qu'ils ne le volent.
Oui, absolument. Et aussi, il y a des colonies d'été pour les jeunes. Et ça peut être très sympathique parce que les jeunes viennent pas seulement de Croatie, mais aussi, je pense, d'Europe centrale. Quand c'est la récolte du sel en été, alors ils peuvent passer leurs vacances, travailler, mais comme ça, ils sont logés, ils sont nourris. Et on les voit souvent habillés en t-shirt blanc, jouer au volley sur le sel.
Sachant que cette exploitation du sel des marais salants continue. Hein.
Ça continue, donc ça a commencé au XIVe siècle, mais ça continue toujours de la même manière. Donc ça n'a pas été modernisé, tout se fait à la main. En général, ça se fait deux fois par an. Deux fois par an.
En tout cas, on se dit qu'à Stone, la vie ne manque pas de sel.
Ça ne manque pas de sel, non. Maintenant, ce n'est pas tellement pour la consommation, c'est plus pour les routes quand il gèle.
In Croatia, I'll be. Along the Adriatic Sea, from Zagreb to Dubrovnik, it's Croatia for me.
Nous sommes redescendus de la grande muraille de Stone. J'essayais d'analyser ce que nous entendons. Bon, il y a le vent, bien sûr. Mais sinon, je me disais ce qu'on entend sinon à Stone, Mariana, c'est le silence ou les oiseaux.
C'est le silence, les oiseaux. Donc on dit que c'est vraiment une petite ville endormie. Mais vu les travaux sur les remparts, sur les forteresses tout autour, j'ai vraiment l'impression que maintenant, les jeunes qui avaient plus tendance de quitter la presqu'île, d'aller vivre ailleurs, qu'ils vont commencer à revenir. Parce qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs activités, il y a le tourisme qui revient, il y a des vignobles, il y a l'élevage des coquillages. Donc pour une famille qui veut travailler, vous pouvez organiser une vie assez belle.
Voilà, et on ne quitte pas Stone sans un petit souvenir de sel, un petit sachet de sel Avec Saint-Blaise.
Avec Saint-Blaise, bien sûr, parce que c'est le patron de la ville de Stone et c'est aussi le patron de la ville de Dubrovnik. Le 3 février, il y a une grande fête, une belle procession, les gens en costume du pays. Pour nous, c'est très important. Et il faut aussi savoir que Saint-Blaise, c'est le protecteur de la gorge. Parce qu'il a sorti une arête de poisson de la gorge d'un garçon. Comme ça, il l'a sauvé. Et le 3 février, on fait la bénédiction de la gorge.
Et Mariana, c'est pas parce qu'on est à Stone que les gens le sont plus qu'ailleurs?
Un peu, oui. Parce qu'on dit que les gens qui habitent les îles ou la presqu'île, c'est une autre mentalité. Ils sont souvent en terrasse, c'est léger. Donc, ils sont travailleurs, c'est vrai. Mais quand même, ils savent bien profiter du soleil.
Quand même cool.
Cool, très cool, c'est vrai, c'est vrai.
Nous progressons, nous avançons, Mariana, dans cette presqu'île de Pelechatz. Et en fait, Mariana, on est sur vos terres ici, on est chez vous.
Alors, je suis née dans ce petit village, j'ai grandi ici, j'ai passé toute mon enfance ici.
Et le nom du village, c'est ?
Putnikovitch.
Putnikovitch, sur la presqu'île de Pelechatz.
Nous sommes devant mon ancienne école.
Donc c'est un pèlerinage, là, on fait carrément un pèlerinage.
On peut le dire. C'est un beau bâtiment en pierre qui a été construit en...
Toujours pierre blanche. Hein.
Toujours pierre blanche.
Avec quelques couleurs, plus ocre.
Pour moi, ça me fait toujours de beaux souvenirs parce que voilà, c'est mon village, c'est ma presqu'île. Mais mon ancienne école a été transformée il y a quelques années en un musée.
C'est ça. Alors je lis parce qu'effectivement, sur les écoles en général, il est écrit « école ». Et là, si on lit ce qui est écrit, j'arrive à lire, hein, c'est « musée, Vina ».
Musei Vina, le musée du vin. Les habitants de ce village ont réussi à réaliser ce grand projet. C'était leur idée qui a commencé il y a une dizaine d'années. Et en 2019, ils ont réussi à ouvrir ce musée qui est très précieux pour toute la région. Et c'est le seul musée du vin en Croatie.
Donc c'est presque, on pourrait presque dire, le musée national du vin.
Je pense qu'on peut le dire, si quelque part ailleurs il y a quelque chose pareil, mais au moins on ne le sait pas.
Alors c'est un très beau bâtiment, avec beaucoup de charme, et puis le musée aussi, il y a plusieurs salles sur 3 niveaux, et on apprend plein de choses sur la vinification, sur les vignes ici en Croatie, et on va même découvrir, alors là c'est pas forcément lié au vin, mais on va même découvrir qu'il y a sur cette presqu'île une route Napoléon.
Il y a une route Napoléon, comme toute la presqu'île et toute la côte a passé à peu près 8 ans sous la domination napoléonienne. Napoléon, son armée, est passée par là. Ils ont décidé de tracer un chemin qui, voilà, même aujourd'hui, on l'appelle la route Napoléon. Et c'est un grand projet parce que, en fait, il y a des endroits d'où la vue est très belle, soit sur les vignes, sur la mer, mais c'est en train de se réaliser.
Et puis autre grand projet d'infrastructure sur une partie de la presqu'île qui va faciliter la vie de tous les habitants de cette région, enfin de toute la Croatie, enfin tous ceux qui viendront par ici. Quand on se rend de Dubrovnik à Split, en fait, si on prend la route, on est obligé de traverser un autre pays.
Oui, ça veut dire que la Croatie est coupée en deux. C'est comme ça. La Bosnie-Herzégovine, elle a une petite bande de terre et c'est leur seul accès à la mer. Et nous sommes obligés de traverser la frontière, quitter la Croatie, entrer en Bosnie et faire la même chose au retour. Mais il y a quelques années, un projet d'une importance stratégique a commencé à se réaliser, c'est le pont, qui sera financé 85% par l'Union européenne et qui va faciliter la vie des habitants, pas seulement de la presqu'île, mais de toute la région de Dubrovnik.
Et puis des visiteurs qui passeront par là aussi. Hein. suite de ce Suivez le Guide en Croatie. Nous sommes avec notre guide Marijana sur la presqu'île de Pelješac dans son village natal et viticole de Putniković.
Pratite vodiča u Hrvatskoj. Suivez le Guide en Croatie.
Alors ici, quand vous êtes arrivé, vous avez reconnu plusieurs personnes qui nous attendaient à l'entrée du musée.
Alors, à l'entrée du musée, en fait, nous avons un de mes amis d'enfance, Ivan, et nous avons mon frère qui est resté vivre avec mes parents ici dans le village. Il a commencé à travailler avec mon père dans la coopérative. Mais ce qu'il faut dire, la coopérative, elle n'est pas privée. Donc, c'est tous les habitants du village qui y participent avec leurs raisins. Et c'est la coopérative qui fait le marketing, la vente et la promotion de notre vin.
Voilà, parce que dans la famille, Marijana, la famille travaille dans le vin. Et on pourrait dire, on peut dire que tout le village ici est concerné, même si ce n'est pas leur seul emploi, mais chaque habitant du village ou presque possède quelques pieds de vigne.
Absolument, c'est l'activité la plus importante, ce n'est pas la seule, mais chaque famille, on peut dire, a une vignoble au moins.
Pas un pied de vigne, mais un vignoble. Et en revanche, toute cette production de vin passe par la coopérative et tout ce travail de vinification est fait par la coopérative.
Pas la coopérative. Donc vous avez le musée qui est dans le bâtiment et juste à côté de la coopérative. La production du vin se fait juste à côté.
C'est un travail difficile, le travail de la vigne ici, donc dans cette région.
Ce qui est le plus difficile pour les gens qui travaillent dans les vignes ici, c'est le terrain qui n'est pas très accessible. Donc vous êtes obligé de monter sans équipement, donc vous ne pouvez pas vraiment venir avec un tracteur. Tout se fait à la main, parce qu'il s'agit des vignes plantées en terrasse. Donc il s'agit des hauteurs très élevées.
Pratiquement sur des falaises.
Pratiquement sur des falaises, ce qui est bien d'un côté parce que vous avez beaucoup de soleil et ça fait monter le sucre et l'alcool. Mais de l'autre côté, ce n'est pas facile à travailler.
Jagoda črlena, jagoda malena, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Jagoda črlena, jagoda malena, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Srce moje, desnoj ruki malenoga sina, srce moje, jagoda črlena, jagoda malena, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Jagoda črlena, jagoda malena, pozdravi mi Koprivnici dragoga.
Auparavant, le véhicule de travail qui était utile dans les vignobles, c'était les ânes.
Avant, c'était les ânes. Aujourd'hui, c'est plus pour les touristes, pour pouvoir leur montrer comment c'était avant. Mais ça n'a pas beaucoup changé.
La passion de la vigne, c'est dans cette presqu'île ou on a dans toute la Croatie la passion du vin?
Je dirais que c'est partout en Croatie, mais surtout dans cette région-là. On dit que les meilleurs vins croates viennent de cette région. Donc vous avez le soleil, vous avez la mer, vous avez les terrasses, tout ce qui permet que le vin ait une qualité supérieure.
Avec une très grande variété, diversité de cépages. Alors, dans la région, je ne sais pas, mais en tout cas dans le pays, c'est sûr.
On dit qu'en Croatie, on a plus de 200 cépages différents. Ce qui est beaucoup pour le territoire de la Croatie qui couvre 56 000 km², c'est beaucoup.
Ce musée, la collection du musée, en fait, on la doit essentiellement à une personne, à un donateur.
Un donateur originaire de Split qui s'appelle Želimir Bašić, amateur d'histoire et de vin. Et toute sa vie, il a fait une collection et il a décidé d'aider notre petit village et on le remercie énormément.
Et il y a, parmi les pièces exposées, je ne sais pas si c'est le trésor du musée, la plus vieille feuille de vigne au monde.
Voilà, on a découvert une des plus vieilles feuilles de vigne du monde qui date 12 à 14 millions d'années.
Bon, précisons que ce n'est pas la feuille qui a 14 millions d'années, mais elle est fossilisée.
Un fossile, voilà, un fossile. Et on dit que la réplique se trouve dans un musée à Londres. Et tout le monde devrait savoir que quand même la feuille la plus ancienne date d'ici et vient de Croatie.
Voilà, et si on veut voir l'original, il faut venir ici dans ce village de
Putnikovici.
On va le goûter ?
On va le goûter, absolument.
Mais avec modération.
Vous allez goûter le vin qui s'appelle Libertas. Et ce mot est très important, bien sûr, pour tout le monde, mais on parle beaucoup de cette expression dans la région de Dubrovnik, parce que sur les remparts de Dubrovnik, c'est marqué en latin « Non bene prototo libertas venditur aura ». Et ça veut dire « La liberté ne se vend pas pour tout l'or du monde ». Donc ici, on a décidé de donner ce nom, Libertas, à notre vin, à un de nos vins rouges.
Et à chaque gorgée, on est de plus en plus libre.
Vous êtes de plus en plus libre, c'est ça. Et aussi, vous allez goûter un de nos vins blancs qui s'appelle Sveta Anna. Et Sveta Anna, c'est la protectrice, en fait, c'est la sainte patronne du village.
Sainte Anne.
Sainte Anne.
Nous allons trinquer. Marijana, que dit-on en Croatie quand on trinque ?
En Croatie, on dit Živjeli. Živjeli, donc c'est ayez une longue vie.
Živjeli.
Živjeli. Živjeli.
Vojki, vojko, jabuko rumena, parim da te ma naranča rodila, nije mene naranča rodila, za goru me mat moja rodila.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
C'est un carillon.
Nous sommes dans une belle petite ville qui s'appelle Orebić. Et nous sommes avec Madame Sabine qui possède un hôtel qui est juste au bord de la mer avec une vue magnifique sur la mer et sur l'île de Korčula.
Dobrodošli, veselim se vašem dolasku. Počašćeni smo što ste izabrali naš objekat za vrijeme vašeg posjeta u Hrvatskoj.
Je vous souhaite la bienvenue chez nous, notre petit hôtel qui s'appelle Adriatic. Nous avons ouvert cet hôtel il y a 9 ans à peu près et nous avons accueilli des touristes du monde entier.
Sabina, vous allez nous raconter en quelques mots l'histoire de cet hôtel qui n'a pas toujours été un hôtel.
Zgrada je iz 16. stoljeća i to je bila prva crkva u Orebiću.
Le bâtiment date du XVIe siècle, mais à l'époque, il s'agissait d'une église. Ensuite, c'était une école primaire. Ensuite, le bâtiment a été habité par les familles qui ne pouvaient pas se loger. Et dans les années 90, il a été abandonné. En 2008, ma famille l'a acheté et nous l'avons rénové et restauré. Depuis, c'est un hôtel.
Un hôtel qui a un charme fou avec des volets verts, quelques chambres seulement, donc 6 chambres seulement, mais 6 très belles chambres. Toutes les chambres sont avec vue sur la mer et toute la décoration de l'hôtel est liée à la vie maritime de la région et de cette petite ville.
Voilà, c'était le village des capitaines parce que c'était l'activité principale, c'était la construction navale, la navigation et le commerce.
Svaka pisma o Dalmaciji postane hit barem u Dalmaciji i cilj je Split rastcvala grana od tehnobetona, cvit Mediterana, diskupljači boca ne daju pit na Mateušci, čuješ samo momak il prazno, pogledaj gradona načelnika, bit će ti jasno, grad blagajnika i skladištara, 40.000 bez posla, shopping centar se otvara, jasan iz mista di duše, izlaze bura puše, nosite prozirne prikaze prea moru, kuća u Babinom polju, odraz lica u lavoru, sike morskom solju, poškropljene cvrci, ritmove proizvode koji smanju najveće, nitkove izrode u nešto što presitno je, odjedno nebitno je, polako dišem sa tokom smire, s protokom misli, kroz mozak normalne brzine, bez gužve i buke, bez želuća ne kiseline, daleko od prašine Splita, ovdje je more prozirnije nego vitar.
Dalmacijo, Dalmacijo.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Nous sommes presque au bout de la presqu'île de Pelješac en Croatie avec Marijana, notre guide, dans ce village Dorebić à l'hôtel Adriatique avec la patronne Sabina.
Pratite vodiča na poluotoku Pelješac. Suivez le guide sur la presqu'île de Pelješac.
Alors, il y a une particularité, il y a un petit trésor. Alors il y a deux choses devant lesquelles on peut s'arrêter, c'est la cheminée. Et en hiver, on peut regarder les plats cuire dans la cheminée. Et puis il y a une rosace qui rappelle que ce bâtiment fut une église, mais la découverte de la rosace est somme toute assez tardive et récente.
Prilikom restauriranja zgrade, naišli smo na tu crkvenu rozetu koja je bila ožbukana. Mi smo digli žbuku.
Nous avons cette belle rosace que nous avons découverte pendant la restauration du bâtiment. Et aujourd'hui, cette rosace se trouve dans la plus belle chambre de l'hôtel qui s'appelle Pauline. Et les clients qui viennent dans cette chambre, à chaque fois où ils reviennent, ils demandent toujours la même chambre parce que cette fenêtre, cette rosace a un charme particulier. Et en plus, nous avons une belle cheminée qui autrefois était utilisée pour faire chauffer l'école, parce qu'autrefois il y avait une école ici pour les enfants. Mais pendant la restauration, nous avons décidé de le mettre dans le salon qui est juste à côté de la cuisine. Et comme ça, les clients qui viennent en hiver peuvent en profiter. En même temps, à travers la cheminée, regarder les cuisiniers qui préparent des plats traditionnels. Et le plat le plus connu s'appelle peka, qui se fait avec soit de la viande, des légumes et des pommes de terre, mais ça peut être aussi de l'octopus.
Ah, du poulpe.
Du poulpe.
Et on le laisse au four combien de temps?
On le laisse pendant 3 heures à peu près.
On a un peu l'impression ici, je ne sais pas si c'est votre sentiment, Marijana, d'être au bout du monde. Enfin, mais en tout cas, même si on n'est pas vraiment au bout du monde, on est un peu au bout de la presqu'île.
Nous sommes au bout de la presqu'île, on sent vraiment la Méditerranée, la mer qui est toute transparente, limpide, l'air qui est bien frais, les oiseaux qui chantent, alors c'est un petit paradis.
Je pense que le problème quand on arrive jusqu'ici, le problème c'est pas d'y arriver, le problème c'est de réussir à le quitter, à repartir et à prendre la décision de repartir.
Voilà, c'est vous le dites. Je trouve que tous ces petits villages en Dalmatie ont un charme particulier qui nous invite et on veut rester. Ouais. Alors, il faut revenir.
Est-ce qu'on peut demander à Sabina, lui demander si elle a l'impression de vivre au paradis ici?
Da. Ja sam u stvari iz Sarajeva, ali sam došla tu prije 30 godina i ostala zauvijek.
Je suis venue ici de Sarajevo, je suis venue ici il y a 30 ans, mais je suis restée pour toujours parce que je suis tombée amoureuse de ce village.
Complétons, Marijana, après notre étape dans cet hôtel adriatique incroyable. On reste dans la famille et après Sabina, nous rencontrons Antonio et Adriana. On est ici à la production de vin. On a roulé quand même quelques kilomètres pour rejoindre la propriété. Mais ce sont des aventures incroyables qu'on peut raconter ici en Croatie.
Alors Antonio va nous dire quelques mots. Comment il a continué le travail de son grand-père?
Et Antonio, c'est vous qui avez embarqué... avec Adriana, votre sœur, enfin c'est vous qui avez embarqué vos parents dans l'aventure.
Znači, kad sam imao 18 godina, djed je rekao da više ne može, da nema snage, da je ostario.
Alors, quand j'avais 18 ans, mon grand-père ne pouvait plus continuer le travail dans les vignobles. Et comme mon père ne s'intéressait pas beaucoup à ce type de travail, j'ai décidé de continuer le travail de mon père parce que je sentais toujours cet amour pour la terre et pour la famille, pour ce type de vie.
Alors, c'est vraiment une aventure familiale. Ça, c'est très important que ce soit une aventure à vivre en famille. Et Sabina nous disait que tous les jours, toute la famille mange ensemble, déjeune ensemble. La cellule familiale est vraiment très forte.
Svaki dan je ručak u podne i to je jedini zapravo dio dana kad se vidimo, svi zajedno prokomentiramo i o problemima, i o uspjesima, i rezultatima i kako ćemo dalje.
Pour nous, la famille est très importante et on est vraiment tous les jours à midi, on déjeune ensemble. Chacun dit ses expériences, ses problèmes. On en discute ensemble et on essaye de trouver des solutions pour avancer.
Et du coup, c'est assez incroyable, ces caves Mikulic, elles partent de l'Adriatique, de la mer, jusqu'au sommet de la montagne.
Alors c'est une étroite bande de terre, mais très très longue, où se trouve notre camping, notre deux restaurants, notre cave à vin, plus les vignobles qui sont au-dessus de la maison vers la montagne.
C'est un bon footing si vous partez le matin, si vous courez depuis le bord de mer jusqu'au sommet de la montagne. Je ne sais pas si vous le faites en courant pour être en forme.
Super, top. Svaki dan po jedno desetak puta dole odmora do vinarije i fit.
Tous les jours, une dizaine de fois, il faut le faire et je me sens vraiment en forme. Je n'ai pas le choix.
Alors tout à l'heure, on a découvert une coopérative. Ici, on est sur un modèle économique différent puisque ici, il y a à la fois les vignes, la production du vin, mais aussi la vinification.
Pravimo vina, znači kako me djed naučio od početka, kako moj djed radi cijeli život.
J'ai tout appris de mon grand-père. Bien sûr, avant, tout se faisait à la main. On a continué comme ça, mais on s'est quand même modernisé un petit peu. Mais on cherche la qualité, c'est le but, et pour le moment, on a du succès.
Avec votre sœur qui est dans l'entreprise aussi, vous êtes jeune. Quelles sont vos attentes, vos espoirs pour finalement le développement de votre cave ici? Comment voyez-vous l'avenir ici en Croatie?
Pa vidim jednu veliku perspektivu, ja koji sam nakon 8 godina škole i fakulteta se vratio na Pelješac.
Après mes études, j'ai décidé de revenir sur la presqu'île et je sens et je suis sûre qu'il y a une grande perspective dans ce type de travail, mais on peut aussi développer d'autres activités.
Il y a parfois pour des jeunes Croates un appel de l'étranger, peut-être en se disant que l'herbe est plus verte ailleurs en Europe. Vous n'avez pas ressenti, vous, entendu cet appel-là? Vous avez souhaité rester au pays?
Que pour les vacances, partir à l'étranger, mais vivre, il faut rester ici.
Nous quittons Marijana Varezic, que nous retrouverons dans la prochaine émission, et rejoignons la région de Split, au nord-ouest de Dubrovnik. Ce sont 230 km, un peu moins de 3 heures de route, surtout côtière, sachant qu'il faut traverser un petit bout de Bosnie-Herzégovine et passer les postes frontières. Nous sommes à l'ethno agroparc Stella Croatica, à un quart d'heure de route de Split dans les terres.
Pratite vodiča u Dalmaciji. Si vele git on Dalmasi.
Dobar dan, ja sam Emanuela i ovdje sam da vam predstavim Stelu Croatiku, koja je jedna manufaktura, zapravo jedna platforma da biste bolje ušli u srž i u bit svega šta nosi Dalmacija. Pričamo o gastronomiji, pričamo o arhitekturi, pričamo o biljkama i o svakom bogatstvu koje nam donosi ovaj kraj, dalmatinski kraj.
C'était une belle version croate. Et maintenant, l'AVF, Emmanuel.
Ben voilà, je me présente, je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous présenter Stella Croatica, qui est une manufacture et aussi également une plateforme éducative pour nous plonger vraiment dans la source de tout ce qu'on tient, la Dalmatie, la richesse que nous offre ce pays dans tous ses aspects, au niveau de l'architecture, au niveau de la gastronomie et au niveau de la culture et du patrimoine de la Dalmatie.
Donc je suis désolé, je vais dire quelque chose, c'est assez nul, mais ça fait rien, je ne peux pas m'en empêcher. Vous avez vécu en Belgique, Emmanuel, et donc vous passez de Stella Artois à Stella Croatica.
Ben voilà, je suis une étoile, je passe d'une étoile à l'autre. Voilà.
Alors c'est un lieu étonnant, on n'imagine pas, quand on prend la route, qu'on quitte Split, on se dit qu'on arrive un peu nulle part, et qu'on découvre Stella Croatica. Il y a presque plus de maisons, ou des maisons en construction, peut-être parce qu'elles sont abandonnées ou pas. Et on se dit, peut-être on s'est trompé, mais en même temps, il y a des panneaux qui indiquent qu'on est bien sur dans la bonne direction. Et puis, la nature, la verdure et une série de bâtiments apparaissent.
Mais voilà, en fait, mais la Dalmatie, en fait, surtout l'intérieur de la Dalmatie est assez désert. Hein. C'est un plateau karstique où il y a beaucoup de pierres, mais il y a aussi la culture, comme on découvre dans tout le bassin méditerranéen, la culture de l'olive et de la vigne. Et oui, c'est un peu une sorte de plateforme, c'est un réel oasis où on a vraiment planté et fait vivre tous ces éléments, en fait, tout ce que contiennent les oasis dalmates qui se trouvent en général en bord de rivière. Vous avez 5 grandes rivières qui traversent le plateau dalmate. Mais oui, effectivement, c'est un désert. Ouais. Il y a beaucoup de pierres, mais il y a aussi des oasis.
On est sur une colline ici ?
Voilà, on est sur une colline. En fait, on se trouve à quelques kilomètres de la colline de Klis. En fait. C'est une sorte de dent de roche qui se trouve entre deux montagnes. Et c'est un peu une porte, une ouverture qui va relier le littoral à l'intérieur du pays.
Et la colline de Klis avec une forteresse.
Qui est fort visitée, qui est donc sur cette dent de roche, un véritable plateau qui nous permet d'avoir une vue magnifique sur toute la ville de Split et les alentours.
Voilà, mais ici, on est vraiment dans un jardin avec une grande diversité de plantes, de fleurs, de légumes.
Tout ce qui est représenté dans ce jardin, en fait, ce sont des sortes vraiment typiques de la région. Mais également, nous avons aussi un petit îlot avec toutes les plantes qui sont des plantes endémiques qui se retrouvent, en fait, dans toute la Croatie.
Et on retrouve le nom de Split dans le genêt ?
L'étymologie du nom de Split, Spalatos, vient du nom grec Spalatos, en fait, qui est le nom du genêt.
Et il y a un petit musée qu'on dédie à l'huile d'olive, à l'histoire de l'huile d'olive.
Voilà, le petit musée. Pourquoi le musée dédié à l'huile d'olive ? Parce que l'huile d'olive est quelque part à la base de ce projet de la famille Polic, d'Andrea Polic, qui a démarré ce projet sur l'île de Mliet, puisqu'ils ont commencé justement avec la production d'huile d'olive.
Alors c'est une initiative, et ce n'est pas la première au fil des visites en Croatie et en Dalmatie. On découvre toute une série de projets qui sont des initiatives non pas de régions, de communes, d'États, mais qui sont vraiment des initiatives individuelles et personnelles. Et il y a un homme, des hommes, une génération, plusieurs générations qui sont vraiment des entrepreneurs.
Ce sont des entrepreneurs. Ça a été très difficile, la période d'après-guerre. Il y a énormément de projets, on va dire, qui ont été soutenus également par des fonds européens et par le gouvernement croate, mais toujours avec des initiatives individuelles.
Et puis un mot de votre histoire à vous, vous êtes un cocktail un peu, on peut dire ça, Emmanuel, vous personnellement.
Bah oui, je suis un mélange assez curieux, puisque j'ai des origines congolaises, de père congolais belge et de mère dalmate croate. Voilà.
terminons ce suivi le guide en Dalmatie avec Emmanuel à l'ethno-agroparc Stella Croatica sur les collines tout près de Split.
Et ciao, Hrvatskoj. Suivi le guide en Croatie.
Que va-t-on goûter, Emmanuel?
Alors, ici, on a une petite entrée avec du super prosciutto, du jambon fumé typiquement dalmate, qui est séché.
Qui sonne un peu le nom, un peu italien, comme le prosciutto.
Ah oui, prosciutto, c'est exactement le même terme. Vous savez, il y a beaucoup de termes italiens et français ici en Dalmatie, puisque nous avons vécu une très très longue période d'histoire sous la République vénitienne. Donc le prosciutto est fumé au bourrasque. Et c'est une manière vraiment typique pour la région, donc du prosciutto, du fromage de Pâques, de l'île de Pâques, qui est un fromage...
De l'île de Pâques, non.
De l'île de Pâques.
Ah, Pâques. Pas l'île de Pâques.
Voilà, ça c'est une île qui se trouve un peu vers le nord de la Dalmatie, qui est très très renommée pour son fameux fromage, qui est un fromage de mélange de lait... de vaches et de brebis. Alors ici, une tapenade d'olive verte.
Parce qu'on est au paradis de l'olive ici.
Une petite salade russe. Oui. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France.
Vous dites salade russe. Nous, elle est souvent accompagnée d'œufs. Alors, mais on dit une macédoine. On n'est pas loin de la Macédoine ici.
En fait, ici, on l'appelle salade française. On appelle ça Francusca salata. Les Français appellent ça macédoine. Et puis, il y en a aussi qui appellent ça la salade russe. C'est pour ça que j'ai dit salade russe.
Parce qu'il y a les œufs à la russe aussi qui accompagnent.
C'est toujours la même salade. En fait, pas très originale, mais très, très bon. Ça accompagne bien le prosciutto et le fromage. Voilà.
Il y a un petit saucisson là aussi.
Donc, alors ça c'est quelque chose de particulier.
C'est pas du saucisson, non, c'est des fruits.
En fait, si, c'est du saucisson, mais c'est du saucisson sucré qui est concocté avec une pâte d'amande et de figues.
Quelque chose me sidère quand même au fil des jours en Croatie, c'est que la nourriture est très présente et les Croates ou ici les Dalmates ne sont pas gros. Et pourtant, on peut passer ses journées à manger quand même. Hein.
Voilà, mais c'est parce que la nourriture est saine. Ici, on mange énormément de légumes, mais la viande n'est pas principale. Surtout à l'époque, la viande était un luxe, on la mangeait une fois par semaine. Les plats étaient très basiques, on mangeait beaucoup de lentilles, beaucoup de choux, des pommes de terre aussi, de la polenta aussi. Énormément de fruits et de légumes, tomates, les blettes, les côtes de blettes aussi est un légume très répandu qu'on mange énormément ici. Mais vous savez, c'est la cuisine méditerranéenne. C'est sain à la base. C'est une cuisine qui est justement qui est utilisée dans certains régimes.
Et dans le centre de Split, dans la vieille ville, les enseignes mondialement connues de restauration rapide ne m'ont pas sauté aux yeux.
Il y en a beaucoup, mais ces quelques dernières années, on met vraiment un accent sur l'authentique et on essaie de virer les pizzas et les pommes frites. Et on essaie vraiment, même avec une nourriture qui peut être vite préparée, d'en faire des fast-food, mais des fast-food. Food,
fast good food.
Des fast good food, voilà.
Emmanuel, nous allons terminer la découverte de Stella Croatica en remontant le couloir de l'unité de production, puisqu'il y a ces produits qui sont transformés ici, que ce soit dans les cosmétiques, les huiles essentielles, mais également pour la nourriture, et puis les huiles tout court, des confitures, enfin c'est très très diversifié. D'ailleurs, la boutique est immense.
Voilà, il y a absolument tout un diapason de produits différents, mais qui sont pour la plupart en fait conçus à la base d'huile d'olive, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, mais la production des douceurs qu'on veut le plus, si vous voulez, valoriser, qui sont vraiment authentiques, ce sont les orangettes, on les appelle les arancini, et ça c'est vraiment typique, surtout pour la région de Mljet, où a commencé toute cette histoire, l'histoire de Stella Croatica. Tout est fait à la main, on va produire les orangettes, c'est un processus qui dure à plusieurs jours. Le jus des oranges, on va l'utiliser pour la production de confitures, et aussi les biscuits qui sont fabriqués, les biscuits et les gâteaux fabriqués à base de figues. puisque la figue et l'olive sont les deux reines de la Dalmatie.
Ouais, c'est très très bon. Hein. Alors tout ça est distribué après dans toute la Croatie.
Alors voilà,
on se régale dans tout le pays.
Énormément de produits sont exportés.
Et exportés.
Exportés à l'étranger.
Et sous le nom de Stella Croatica.
Absolument, c'est sous le même emballage et sous le même nom donc de Stella Croatica. Tous nos produits peuvent se retrouvent en fait dans tous les aéroports en Croatie, que ce soit Zagreb, Split, Zadar ou Dubrovnik. C'est un des, je crois, des produits les plus exportés et les souvenirs gastronomiques les plus connus ici en Croatie.
Il me reste à vous remercier, Emmanuel, de nous avoir fait découvrir ce qu'on appelle alors Stella Croatica. Il faut rouler un peu les R hein, quand même.
Il faut rouler les R, hein, oui, bien R. sûr.
Je cite, on l'appelle aussi l'ethno-agroparc.
Ethno-agroparc, absolument. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous rencontrer et de pouvoir voilà, vous partager ce bonheur avec vous.
Et c'est la fin de ce troisième Suivez le Guide en Croatie. Vala Lijepa Marijana Vrezić, Emmanuel, Roskam, Ivan, Sabina et Antonio au fil des rencontres. Merci Lena Bigonville, Daniela Mialic Durica, l'Office national croate de tourisme à Paris. Et Maria Cepetav Turković, ITT International Tourist Travel, qui a organisé le circuit. Réalisation Roman Feocchio, les sites internet itt-travelagency.com et croatie.hr en VF.